laisser plus de place à la nature dans son jardin. C'est ce que propose le VIF avec l'opération En mai, tombe à l'arrêt. Ces dernières années, la protection de l'environnement est devenue un enjeu majeur. Mais la biodiversité reste particulièrement menacée, y compris chez nous. Vous écoutez un podcast du VIF. Dans cet épisode, nous allons explorer pourquoi certains ont délaissé le gazon au profit de clairières, de mares et de grands arbres. C'est le cas de Natacha et Olivier, à la lisière du Bois de Fa, à Gré-d'Oiseau. Depuis 4 ans, ils y cumulent des actions pour laisser libre cours à la nature. Et les résultats sont évidents.
Donc, en retour d'expatriation, en fait, on s'est retrouvé dépositaire d'un grand terrain, 6 hectares et demi, et d'une maison. Et quand s'est posée la question du jardin, en fait, on a pas mal réfléchi, sachant qu'on avait été très, très inspiré par deux rencontres, l'une physique, qui est la rencontre de Gilles Clément, qui est un paysagiste français qui nous a beaucoup inspiré par sa démarche de travailler avec la nature plutôt que contre la nature. C'est lui qui a théorisé des concepts comme le jardin en mouvement, le jardin planétaire ou le tiers paysage. Et ça nous a beaucoup inspiré. Et la deuxième rencontre qui là était à travers un film, qui est le film de Sebastião Salgado, qui s'appelle Le sel de la terre, où il raconte son histoire et notamment le fait qu'il a reboisé complètement une ancienne propriété familiale au Brésil, une ferme dont il a hérité et qui était devenue un désert. Il a planté avec son épouse plus de 4 millions d'arbres. Et donc on a travaillé avec un paysagiste qui est un élève de Gilles Clément. Il y a 5 thèmes en fait. Il y a les prairies fleuries dans la clairière, il y a les zones humides, il y a les forêts Miyawaki, il y a la prairie qui devient un verger en permaculture, et puis la dernière addition au jardin était, on a eu la possibilité de se porter acquéreur d'une ancienne peuplerie qui a été laissée à l'abandon pendant 30 ans. Et on est parti sur un concept de clairière, en fait, puisque ici, c'est une ancienne forêt. Enfin, c'était comme probablement partie de la forêt de Soigne ou une extension de la forêt de Soigne à l'époque, qui a été pas mal déboisée. Mais on est encore entouré de forêts. Et donc, on est reparti d'un concept de clairière dans lequel on a mis des prairies fleuries. Mais on devait aussi renforcer les abords. Et donc, pour renforcer les abords et recréer la forêt, on a planté 5000 arbres avec la méthode Miyawaki, qui permet en fait d'aller directement vers une forêt à l'équilibre en plantant une vingtaine d'espèces différentes, toutes locales, un peu de nouveau inspirées par Salgado. Et on espère avoir des résultats en 10 ans d'avoir une forêt qui éventuellement a l'aspect et surtout la qualité en biodiversité d'une forêt centenaire.
Peu de particuliers disposent d'un espace naturel aussi vaste. Mais le domaine de Natacha et Olivier est une incroyable source d'inspiration pour apprendre à gérer et regarder son jardin autrement. En leur compagnie, nous partons explorer leur oasis de biodiversité.
Alors ici, c'est clair qu'on n'est pas fan de gazon. Moi, quand je vois un grand gazon tondu, j'appelle ça un désert de biodiversité. Donc, c'est un déséquilibre qu'on crée. Donc, effectivement, on n'a pas de grand gazon. On en a eu. On a aussi un peu fait l'erreur. Mais surtout, on a voulu quelque part laisser faire le jardin. J'en reviens un peu à Gilles Clément. Et son concept de jardin en mouvement, en fait. On a planté beaucoup de prairies fleuries et on taille des chemins dans les prairies fleuries, ce qui permet en fait d'avoir un jardin qui évolue tout le temps, qui est meilleur pour la biodiversité, mais qui est beaucoup plus c'est beaucoup plus agréable en fait. Ça change tout le temps, ça nous permet d'avoir un jardin qui est tout le temps en évolution plutôt que une bête pelouse qui en plus faut tondre et ça amuse deux fois les enfants de tondre la pelouse et puis après C'est nous, les parents, qui devons nous en occuper.
On va aller par là.
Voilà, ici on est dans la forêt, la première forêt Miyawaki qu'on a plantée il y a 3 ans. Et le concept, ça a été développé par un japonais, un biologiste japonais en fait, qui quelque part a observé la nature et a mis au point un moyen d'accélérer la croissance des forêts pour aller directement à l'équilibre futur. Si on faisait rien ici, on finirait aussi par avoir une forêt, mais celle-ci, elle nous fait gagner du temps. Et lui a mis ça au point en fait au Japon parce que la meilleure barrière contre les tsunamis, c'est des forêts. Et donc il plante énormément de forêts le long des côtes. Mais ce qu'on voit ici en fait, c'est qu'on a planté plein d'espèces différentes, tout à fait de façon aléatoire, un peu comme dans la nature, et de façon très très proche. Donc on est à 3 arbres par mètre carré, ce qui permet en fait de stimuler, certains diront la compétition, d'autres la collaboration entre les arbres, et on voit ici qu'en à peine 3 ans, en fait, on a des arbres qui font déjà plus de 5 mètres de haut. Et donc ici, si on revient dans 3-4 ans, on aura une forêt déjà assez avancée, à l'équilibre, avec énormément de biodiversité. On l'entend déjà ici aujourd'hui, il y a énormément d'oiseaux par exemple. Voilà, ça c'est la forêt Miyawaki.
En poursuivant la balade, nous arrivons dans une prairie. Nous y rencontrons Loïc Dahan. Il est entomologiste, c'est-à-dire spécialiste des insectes.
Bonjour.
Bonjour.
La pêche est bonne ?
Oui, très bonne.
Avec son équipe, il est venu observer toute la richesse de ce site, composé de plusieurs types d'écosystèmes.
Donc on est en train de faire un inventaire entomologique sur le site du bois de Fa. Donc qui a pour but de voir l'importance, la gestion et la richesse du milieu. Donc c'est assez surprenant sur ces 7-8 hectares de voir le nombre d'espèces de coléoptères. On est presque à 500 espèces, donc ça montre quand même une très bonne biodiversité avec des milieux qui sont très différents, comme ici, un milieu très ouvert, très, très ensoleillé. Ensuite, en sous-bois, il y a d'autres espèces. Donc, il y a vraiment une bonne diversité. Et je crois que Natacha et Olivier ont bien compris l'importance de diversifier et de l'importance botanique aussi qui est liée à tout ça. Donc, et c'est aussi une étude qui sera importante pour les générations futures, pour voir l'évolution. Parce que finalement, on ne connaît pas énormément de choses sur la vie des insectes et sur des études qui sont menées sur plusieurs années. Donc il y en a quelques-unes qui ont été faites à Strasbourg, jardin botanique, une au jardin Massard et dans quelques réserves naturelles aussi du côté de Charleroi. Donc non, c'est important pour savoir, avoir un bilan à une date pour voir comment évolue le milieu. Voilà.
Nous quittons Loïc Dahan et Gré d'Oiseau pour retrouver Luc Noël. Depuis 1997, celui-ci présente l'émission Jardins et loisirs sur la RTBF. Nous le rencontrons au milieu de la prairie Dolé. La prairie Dolé, c'est un parc potager en zone Natura 2000 à Uccle. Au fil des années et de ses nombreuses visites de terrain, ce passionné constate une évolution positive.
Dans notre émission Jardins et loisirs, ben voilà, nous rencontrons maintenant des jardins qui sont bio et qui sont ouverts à la vie sauvage. Et les mentalités continuent toujours actuellement à évoluer, dans le sens où, voilà, continuellement l'information va dans ce sens, et on en est même au point maintenant où, lors des foires aux plantes ou dans les pépinières, on voit des gammes végétales qui sont spécifiquement proposées pour justement améliorer l'accueil de la biodiversité dans nos jardins, avec des variétés de rosiers par exemple qui permettent le butinage des insectes butineurs, avec des plantes qui sont spécifiquement mellifères, donc qui vont offrir du pollen et du nectar aux abeilles. Et donc on voit vraiment que ça fait partie maintenant finalement des gestes normaux du jardinier. Alors la problématique de la conservation de la nature ne peut pas se limiter à la réserve naturelle. Parce que si on ne conserve la nature que sous cloche, dans des zones vraiment à l'écart, finalement, de la vie quotidienne, eh bien, on n'aura rien résolu. Donc, il faut aller vraiment vers un concept de maillage. Et à ce niveau-là, les jardins ont un rôle essentiel. Parce qu'ils sont présents absolument partout. En Belgique, nous avons vraiment la chance d'avoir un pays extrêmement vert. Donc, nous n'avons pas de grandes agglomérations denses. Bruxelles, qui est vraiment la ville la plus importante, est une ville extrêmement verte, avec la présence quand même de beaucoup de parcs, d'allées arborées, et tous ces îlots urbains qui sont aussi des sites verts. Donc, nous avons la chance d'avoir un pays qui est extrêmement, je dirais encore, ouvert. Et donc, un jardin, aussi petit soit-il, eh bien, en fait, il est associé à un jardin du voisinage. Et donc, dans une rue, dans un quartier, dans une commune, dans une province, et puis finalement, à l'échelle du pays, eh bien, toutes ces surfaces additionnées les unes aux autres, eh bien, ça représente finalement une réserve naturelle absolument immense par rapport aux quelques territoires qu'on peut placer sous ce statut.
Cette logique est cependant loin d'avoir conquis tous les jardins. Beaucoup constituent encore une occasion manquée d'aider les oiseaux, les pollinisateurs et les plantes indigènes à se refaire une place autour de nous. La volonté de contrôler la nature, de la figer, reste un réflexe fréquent.
Le jardinage est vraiment influencé par l'information qu'on reçoit. Et on peut constater que beaucoup de personnes sont toujours, je dirais, dans des références anciennes. On aménage un terrain après avoir construit la maison. Et bon, bien souvent, parce que on l'a vu faire autrefois, parce que ça existe dans le cercle familial, eh bien, on va planter une haie de tuyaux de Camesiparis, des conifères qui créent rapidement un mur vert. Alors, si l'objectif est de s'isoler du voisinage et de se garantir une certaine intimité, ben là, effectivement, c'est acquis. Mais on s'enferme dans son jardin, on se met en prison finalement derrière cette muraille verte qui ne va absolument pas varier au fil des saisons. Et ça, c'est absolument dramatique parce qu'on se coupe du paysage, d'une part, mais d'autre part également, on n'offre aucun accueil à la vie sauvage. Ces haies sont originaires d'Asie, elles n'offrent aucune possibilité de synergie avec notre faune, avec notre flore. Donc, pas d'accueil d'autres plantes, pas d'accueil d'oiseaux, rien à offrir à butiner, aucune baie pour la nourriture hivernale des oiseaux. Ce sont vraiment des déserts écologiques. Et puis, effectivement, on va toujours privilégier une partie de gazon, parce que finalement, il y a ces références, culturelles au niveau de l'aménagement du jardin, mais on a aussi finalement le souci de vivre dans une propreté paysagère. Parce qu'on ne veut surtout pas se mettre en défaut vis-à-vis de son voisinage. En Belgique, nous sommes soumis à cette pression, de manière souvent totalement inconsciente. Donc personne, ou très peu de personnes n'oseraient se développer des orties devant chez soi. Parce que, évidemment, vous allez subir le regard oblique du voisinage. Et dans certains quartiers, cette pression sociale est très très forte. Parce qu'on viendrait à vous dire que, ici, ça ne se fait pas ce genre de choses, que vous devez quand même entretenir votre bien. Et on en arriverait même, dans certains quartiers, à vous dire, écoutez, monsieur, votre jardin mal entretenu, ça ne va pas parce que vous apportez vis-à-vis du voisinage, à la limite, une moins-value immobilière. Donc, on est soumis à cette pression.
Les citoyens souhaitant opter pour un jardin plus diversifié ne sont pas livrés à eux-mêmes. Des associations et des professionnels les aident à cohabiter au mieux avec la faune et la flore. Ils leur enseignent d'ailleurs des techniques naturelles pour éviter les mauvaises surprises. La prise de conscience se traduit aussi par de nouvelles espèces proposées dans les pépinières.
Alors nous avons la chance de bénéficier d'un réseau extraordinaire de professionnels en Belgique au niveau des pépinières de collection. C'est phénoménal de voir la diversité qu'ils ont pu rassembler et qu'ils continuent à améliorer parce que nous sommes face à des challenges vraiment extrêmement importants. Le réchauffement climatique est là, il arrive brutalement. Moi, je n'aurais personnellement jamais imaginé que les choses soient aussi violentes. Voilà, en l'espace de quelques années, nous sommes confrontés à la sécheresse, à des températures caniculaires, avec un gros impact sur la végétation. Voilà, le statut des forêts est remis en question. On voit que des arbres comme les hêtres, les chênes souffrent énormément. On a tout le problème de dépérissement des conifères qui ont été plantés en forêt, et au point qu'on se dit maintenant que voilà, il faut tester de nouvelles essences pour le futur. Et les pépiniéristes, bon, voilà, actuellement, ben, sont en train d'explorer dans la gamme botanique des espèces qui pourront nous accompagner au niveau du jardin. Alors, à ce niveau-là, moi, je constate que beaucoup de pépiniéristes, maintenant, sélectionnent leur gamme en fonction, effectivement, des possibilités de réussite au jardin. Ne pas vendre des plantes qui sont soumises vraiment à du stress et à un risque de disparition à court terme, mais faire en sorte que des végétaux puissent prendre une place durable dans un jardin.
Vu l'urgence de la crise environnementale et climatique, tous les apports sont les bienvenus. Pour inscrire votre jardin à l'opération du VIF et recevoir des conseils pratiques, rendez-vous sur le site enmaitontalarrêt.be. Une initiative menée en partenariat avec la faculté Jean Blou Agrobiotech et l'ASBL Adalia. Le jardin de Natacha et Olivier sera ouvert aux visites le 6 juin prochain dans le cadre de l'événement Jardin 100% naturel à Gré-d'Oiseau.
Une fois qu'on est passé au-dessus de l'idée de contrôle absolu, en fait, c'est quelque chose d'assez joyeux de jardiner avec tous ces animaux.
Ce podcast a été écrit par Christophe Leroy et réalisé par Pierre-Étienne Bonnet. Les podcasts du VIF sont disponibles sur toutes les plateformes. Merci pour votre écoute.